Sud Radio Guy Carlier à la limite du hors-jeu.
Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent.
Bonjour Guy Carlier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Guy, hier l'Euro de foot nous a fait vivre toute la gamme des émotions humaines.
Oui, c'est vrai Philippe, nous sommes montés dans un terrible ascenseur émotionnel hier après-midi lorsque Eriksen, le joueur danois, s'est effondré sur la pelouse du Parken de Copenhague, que l'on a tenté de le ranimer pendant de longues minutes tandis que ses coéquipiers en larmes faisaient un cercle autour de lui pour nous cacher l'insupportable et qu'on a fini par l'emmener hors du terrain, encadré d'un drap blanc qui ressemblait à un suaire. À cet instant, tout laissait penser que le pire était arrivé et nous sommes restés un long moment sidérés, tétanisés par la scène à laquelle nous venions d'assister. On savait qu'on n'oublierait jamais ce samedi de juin et qu'on se souviendrait toute notre vie de l'endroit où l'on se trouvait et de ce qu'on faisait lorsqu'on a vu Eriksen allongé sur le terrain, de la même façon que les plus anciens se souviennent qu'ils regardaient le film L'Homme de Kiev avec Alan Bates quand un bandeau en bas de l'écran de nos télés annonça la mort du président Pompidou, ou bien encore de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001 lorsqu'un ami nous a téléphoné pour nous dire « Allume la télé, il se passe un truc dingue » et qu'on a vu un avion s'encastrer dans une tour de Manhattan. À cet instant, je ne sais pas pourquoi m'est revenu en mémoire un livre que j'avais volé il y a longtemps au Prisonnier d'Argenteuil, juste parce que son titre m'intriguait. Il s'intitulait « La mort en ce jardin ». La mort était dans ce jardin de Copenhague. Que faisait-elle là? Depuis un an et demi, elle s'est amusée avec l'humanité. Et puis au moment où nous parvenons à la repousser, au moment où nous commençons à la chasser, au moment où nous redevenons joyeux, insouciants, comme des enfants, la voilà qui vient en ce jardin de Copenhague se moquer de la joie puérile des supporters qui reviennent à nouveau dans les stades chanter torse nu et les rend d'autant plus ridicules. Ridicules et pathétiques avec leurs perruques aux couleurs de leur équipe, ces casquettes d'où sortent deux mains qu'on peut faire applaudir en tirant sur une ficelle et ces énormes gobelets de bière qu'ils tendent vers le ciel. Alors hier, notre première réaction a été de dire que le foot était bien dérisoire face à une telle tragédie. Mais quand on a appris que le joueur allait s'en sortir, quand les autres joueurs sont revenus sur la pelouse et quand le match a repris, les hommes torse nus dans les tribunes ont tiré sur la ficelle qui faisait applaudir leur casquette, ils ont levé leur verre de bière au ciel pour mieux trinquer avec la vie et on s'est dit que non, le foot n'est pas dérisoire. Et quand Schmeichel, le gardien de but danois, a pris chacun de ses coéquipiers dans ses bras pour leur dire que la vie allait gagner, c'était comme s'il faisait un doigt d'honneur à la mort. Alors cette dernière, dégoûtée, humiliée, a quitté le stade de Copenhague sous le chant des hommes, torse nu, et puis comme elle est mesquine, la mort, elle est revenue un court instant punir Schmeichel en lui faisant prendre un but qu'un minime aurait arrêté et elle a fait perdre les Danois qui méritaient la victoire. Pourtant, c'est elle qui perd à chaque fois. Elle croit nous infliger les pires souffrances, mais nous nous relevons vivants. À chaque fois, elle croit gagner parce qu'on sort d'un cimetière où l'on vient de dire adieu à quelqu'un qu'on aimait et qu'on se retrouve pour partager un repas en se racontant des souvenirs qui nous font rire. Et tout au long de ces souvenirs qu'on se rappelle dans ces repas, le sang de la vie coule à nouveau dans nos veines. Et on entend des rires, et on entend des chants. Voilà pourquoi on va vivre un bel euro. Parce qu'après les épreuves que l'humanité vient de vivre, c'est un repas de retrouvailles. On va se raconter des souvenirs de foot, on va chambrer ceux qui ont les pieds carrés, on entendra des rires, on entendra des chants. Bref, on va vivre. Quant à nous, on se retrouvera chaque matin pour rire et se moquer de la mort au pied carré. Bon dimanche à tous.
Mon cher Guy, bravo pour cette chronique remplie d'émotions. Je voudrais vous poser deux questions rapidement. Vous n'avez pas trouvé belle l'attitude des joueurs finlandais qui ont applaudi les Danois qui revenaient sur le terrain et des supporters finlandais qui chantaient Christian et les Danois qui répondaient Eriksen?
Tout a été beau, tout a été ce qu'il y a de comme si ça faisait ressortir le meilleur de l'homme dans toutes les attitudes qu'on a vues hier et ça donne je trouve que c'est ça donne la foi et l'espoir dans les hommes.
Ça donne la foi et l'espoir dans le football et on sent le grand humain et le grand passionné de football que vous êtes. Et évidemment, on a tous une pensée pour Christian Eriksen qui est en ce moment sur un lit d'hôpital à Copenhague et on espère que tout ira bien et qu'il pourra revenir sur les terrains le plus vite possible. Merci beaucoup à vous Guy Carlier.
Merci beaucoup.
Tout de suite, on va reparler du sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et la dépêche du midi sur les régionales en Occitanie qui a été divulguée hier soir. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Garot, tête de liste RN en Occitanie. Jean-Paul Garot, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous arrivez en tête avec 31% des voix devant la présidente de région, Carole Delga, créditée de 29% des suffrages. Est-ce que ce sondage vous satisfait ?
Écoutez, ça montre bien une dynamique. Je suis en progression constante depuis plusieurs mois. Il y a trois mois, j'étais à 16%. Aujourd'hui, après être passé à 20%, 25%, 30%, je suis soit à 31, soit à 33, si c'est l'IFOP ou si c'est l'Ipsos. Donc c'est une progression constante, c'est une dynamique. Et oui, effectivement, j'en suis très heureux.
Alors, si on analyse le sondage, vous captez 27% de l'électorat de François Fillon lors de la dernière présidentielle. Êtes-vous en train de siphonner la droite LR d'où vous venez ?
Écoutez, je suis resté tel que j'étais, j'ai gardé exactement les mêmes convictions depuis le début, ça fait 20 ans à peu près que je me suis, disons, lancé en politique, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, j'ai soutenu François Fillon, j'étais d'ailleurs l'un des derniers sur l'estrade au Trocadéro avec lui, donc je n'ai pas changé, je suis naturellement là où je suis aujourd'hui, et les gens le comprennent, parce que pour moi maintenant c'est effectivement le Rassemblement National, Marine Le Pen, et tous ceux qui nous accompagnent, qui ne sont pas forcément d'ailleurs au Rassemblement National, qui viennent d'autres origines politiques, qui nous rejoignent dans un mouvement d'union, parce qu'on veut changer, en fait, le système socialiste en place. Et si vous voulez, ceux qui sont en place, ils veulent maintenir ce système, hein, ce qui a été très négatif pour la région Occitanie, puisque, je rappelle les conclusions du magazine Capital, qui viennent de sortir, la région Occitanie, elle est 12e sur 12 régions métropolitaines. Alors, de deux choses l'une, soit on continue avec les mêmes, Madame Delga et ses amis, parce qu'actuellement, il y a de fortes tractations entre eux, pour évidemment se répartir les postes, et parce qu'ils veulent reproduire le scénario de 2015, vous savez, où, alors que Louis Alliot avait fait un très bon score, autour de 30%, et à l'époque, les Républicains, enfin l'UMP de l'époque, avait fait 20% à peu près, on était à plus de 50%, sont quand même les socialistes qui ont gardé la région. Alors là, si vous voulez, aujourd'hui, bah, il faut arrêter de faire perdre, je dirais, la droite. Monsieur Pradier, le tenant de liste LR, est là pour faire perdre la droite. En réalité, c'est sa mission, en réalité. Donc, il faut voter utile. Il faut voter utile, il faut voter pour nous. Parce qu'avec nous, si vous voulez, ça va évidemment changer. Alors, le système tel qu'il est socialiste actuellement, il est en train de se protéger, de tenter de se protéger. Et donc, moi, je souhaiterais créer une vraie synergie avec Thierry Mariani, qui est en train de gagner la région PACA. Et PACA et Occitanie, on a toute la façade littorale, donc de la Méditerranée. C'est énorme. On peut faire pour le tourisme, pour la pêche, pour l'environnement, pour la mer Méditerranée. On peut faire aussi beaucoup de choses.
Jean-Paul Garot, vous êtes en tête au premier tour, donc 31%. Mais dans tous les cas de figure, vous perdez au second tour, puisqu'en cas de quadrangulaire avec Carole Delga, Vincent Terrain-Novès et Aurélien Pradier, vous feriez 32% contre 40% à Carole Delga et 34% en cas de triangulaire avec Carole Delga et Aurélien Pradier. Vu l'écart, pensez-vous que c'est rattrapable ?
Bien sûr, parce que le groupe Bailey, qui soutient donc plusieurs organes de presse, fait passer effectivement ce message comme quoi finalement, braves gens, restez chez vous, n'allez pas voter, les jeux sont déjà faits. Bon, alors, ben, c'est pas du tout exact. La réalité, c'est que Madame Delga et moi, on est à 60% des voix, ce qui est considérable, que les autres sont relégués, bon, très très bien, je dirais, mais que certains d'entre eux peuvent se maintenir au second tour. Alors là, on peut se retrouver à 2, on peut se retrouver à 3, à 4, à 5. Donc, moi, bien malin, qui peut savoir ce qui va se passer au second tour, vous comprenez bien. D'autant plus que la dynamique, elle est quand même dans par rapport à ma liste. Donc, le vote utile. Les gens qui, d'ailleurs, se préparent à voter davantage, je dirais, qu'au municipal, et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il faut que les gens comprennent bien que c'est à eux de prendre leur destin en main. Nous, on propose des programmes, mais c'est maintenant à eux de faire, hein, et c'est l'expression démocratique par excellence, c'est bien sûr le vote, et donc je les engage à aller voter en masse. Et à ce moment-là, vous verrez bien que tous les pronostics de second tour ne seront pas ceux qu'on vous donne aujourd'hui. Moi, je crois, je ne fais pas de la figuration, je vais gagner cette élection.
Merci beaucoup Jean-Paul Garot. Je rappelle que vous êtes tête de liste du Rassemblement National en Occitanie. Je donne le nom des autres listes, c'est obligatoire. Il y aura aussi la liste Faire entendre le camp des travailleurs de Malena Adrada, la liste Occitanie populaire de Myriam Martin, la liste L'Occitanie naturellement d'Antoine Moriste, l'Occitanie en commun de Carole Delga, Nouvel élan pour l'Occitanie de Vincent Terrain-Novès, Du courage pour l'Occitanie d'Aurélien Pradé, Rassembler l'Occitanie Jean-Paul Garraud qu'on vient d'entendre, Bastir l'Occitanie de Jean-Luc Davzac et Union Essentielle d'Anthony Le Boursicot. Dans quelques instants, notre débat du dimanche qui rebondit sur les sondages. Y aura-t-il un raz-de-marée RN au régional? Vous êtes pour le moment 71,3% à dire oui sur Twitter. On en débattra avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Yves Bourdillon, journaliste aux Échos.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Ils étaient cette semaine sur Sud Radio.
Alexis Corbière.
Il n'y a pas à s'excuser, on n'a pas insulté qui que ce soit.
Non, mais ça, c'est ce que fait Barbara Pompili, le gouvernement. J'espère qu'à Sud Radio, on n'est pas là-dessus.
Maxine, la gagnante de Koh-Lanta.
J'ai ressenti énormément de fierté, un peu de nostalgie aussi, parce que c'est la fin d'une très belle aventure.
Valérie Pécresse.
Ce que je crois, c'est que les solutions de la droite sont les bonnes pour la France. Le « en même temps », ça ne marche pas sur la sécurité, c'est pas la droite. Mohamed Cheikh, le gagnant de Top Chef.
Je suis un citoyen du monde et que ma cuisine représente ce que je suis.
C'était cette semaine sur Sud Radio Parlons Vrai. L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Trina.
Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 13 juin.
Bélier, vous retrouvez un large sourire grâce à des finances à la hausse. Faites profiter vos proches, mais gardez un œil sur les grosses dépenses.
Taureau, vous serez aujourd'hui dans l'action pure et intensive. Il vous faudra quand même vous en échapper pour respirer.
Gémeaux, bien que vous soyez plongé dans une foule d'activités, vous tenez la forme aujourd'hui.
Cancer, l'agitation qui vous environne ne doit pas vous perturber. Restez concentré sur vos objectifs.
Lion, un délai sera nécessaire pour consolider votre projet. Ne baissez pas les bras pour autant. Gardez le cap en vous montrant patient.
patient.
Vierge, le rythme de cette journée vous fatigue. À vouloir plaire à tout le monde, vous ne satisferez personne et certainement pas vous.
Balance, vous ressentez un réel besoin de profiter des plaisirs de la vie. N'hésitez pas, cela vous sera vraiment bénéfique.
Scorpion, vous êtes attiré par ce qui vous entraîne au loin, l'envie d'explorer d'autres univers plus enrichissants que ceux qui sont à votre portée.
Sagittaire, votre optimisme remonte encore d'un cran. C'est le moment de profiter pleinement des bonnes choses.
Capricorne, modérez vos élans. Cela vous permettra de ne plus vous disperser et de trouver l'énergie nécessaire au bon moment.
Verseau, votre forme est excellente. Profitez-en pour stabiliser son affluence et ressourcez-vous au contact de la nature.
Poisson, chouchoutez votre moitié et restez à l'écoute de ses besoins plutôt que d'exiger sans cesse de l'attention pour vous-même.
Merci Trina. Il est 9h sur Sud Radio. Sud
Radio. Parlons vrai.
Le journal avec Clémence Lebary. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Jour de finale à Roland-Garros. Novak Djokovic affronte Stefanos Tsitsipas à 15h cet après-midi. Tout ce qu'il faut savoir sur cette finale inédite dès le début de cette édition. Le retour des festivals à Toulouse, notamment Rio Loco, débute aujourd'hui. L'occasion d'expérimenter le pass sanitaire, vous l'entendrez. Et puis attention au pollen. La plupart des départements français sont toujours en alerte aux graminées. Retrouvez quelques conseils à la fin de ce journal pour se protéger. On commence en tennis car c'est jour de finale à Roland-Garros. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic affronte cet après-midi Stefanos Tsitsipas. Un match qui s'annonce inédit à plus d'un titre, Florian Laffont.
Et oui, car déjà c'est une finale de Roland-Garros sans Rafael Nadal et c'est assez rare pour le souligner. Novak Djokovic, on le rappelle, est venu à bout du roi de la terre battue en demi-finale. Le Serbe va maintenant tenter de gagner son 19e Grand Chelem et se rapprocher ainsi du record de 20 Grand Chelem, record détenu par Federer et Nadal. En face de lui, Stefanos Tsitsipas, le grec qui va tenter lui de gagner son tout premier grand chelem, mais il est plutôt en forme cette année avec déjà deux titres, dont le Masters 1000 de Monte Carlo. Une finale en tout cas. Aux aires de revanche, Stefanos Tsitsipas avait été éliminé en demi l'an dernier par Novak Djokovic.
La finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, c'est à partir de 15h. Et hier chez les dames, c'est la tchèque Barbora Krejčíková qui a été sacrée. Et puis eux ont sauvé le bilan français à Roland-Garros. Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut ont remporté le tournoi en double hier face à une paire kazakh. Dans le reste de l'actualité, Rémi Daillé expulsé de Malaisie. Cette figure d'un mouvement complotiste et sa compagne ont été remis aux autorités françaises dans l'affaire Mia. Ils sont soupçonnés d'avoir contribué à l'enlèvement de la petite fille de 8 ans en avril dernier. Rémi Daillé et sa famille sont attendus demain matin à Paris. Plusieurs centaines de jeunes, une nouvelle fois réunis sur l'esplanade des Invalides à Paris. Après celle de vendredi soir, une fête géante a encore été organisée, sans masque ni distanciation sociale. Les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles et de bouteilles. Les policiers qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène, au moins 3 personnes ont été interpellées. Vacciner les adolescents contre le coronavirus, c'est un impératif arithmétique pour parvenir à l'immunité du groupe. C'est ce qu'assure en tout cas Alain Fischer dans les colonnes du journal du dimanche. Le chef de la stratégie vaccinale du gouvernement indique que cette immunité sera atteinte quand 90% des 12 à 100 ans auront été vaccinés. On rappelle que le seuil des 30 millions de personnes qui ont reçu au moins une injection de vaccin a été franchi ce week-end. Et vacciner, c'est l'une des conditions pour participer à ce premier grand festival de musique en France. Le Rio Loco commence aujourd'hui à Toulouse avec un strict protocole sanitaire en place. Un crise sanitaire oblige. La jauge est ainsi limitée à 2800 spectateurs par soirée. Les concerts se termineront à 22h, couvre-feu oblige, mais ce sera surtout le premier festival à tester le pass sanitaire. Alors comment faire si on n'a pas encore reçu ces deux doses de vaccin? Les précisions de Virginie Chocard de la direction des musiques de la ville de Toulouse.
Nous, on conseille vraiment à tous nos publics de pouvoir préparer, anticiper leur venue en essayant de se faire dépister en bas de chez eux. Là, on est en train de travailler avec l'ARS aussi sur la mise en place d'un centre de dépistage qui soit à proximité quand même du festival pour que vraiment, au cas où je n'ai pas pu prendre toutes ces précautions, je puisse quand même avoir la possibilité d'aller faire un test antigénique et de revenir avec ma place que j'avais achetée et de pouvoir assister au concert.
Le début du Rio Loco, c'est donc ce soir à Toulouse. Le pass sanitaire sera téléchargé par les spectateurs via l'appli Tous Anti-Covid. Ils étaient étaient près de 36 000 manifestants à travers toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, à marcher contre les idées de l'extrême droite. 9 000 participants, d'après la préfecture, se sont réunis à Paris. Une manifestation marquée par l'enfarinement du chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, place Clichy. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Après un week-end de discussions autour de la crise sanitaire, de l'économie ou encore du climat, le sommet du G7 s'achève aujourd'hui au Royaume-Uni. En marge de cette journée, Joe Biden rencontrera la reine Elisabeth II. Le président américain sera d'ailleurs le premier chef d'État à rencontrer en personne la souveraine britannique depuis le début de la pandémie. Et puis la plupart des départements français placés en alerte rouge par le réseau national de surveillance aérobiologique en cause la présence de pollen, de graminées dans l'air. Alors comment s'en protéger et ne pas trop les subir si nous sommes allergiques? Olivier Montaigu, vous avez quelques conseils pour nous.
Oui, vous avez de la chance, il fait beau ce week-end. Vous pourrez donc porter vos lunettes de soleil sans complexe. Elles sont un très bon écran pour limiter votre réaction allergique et réduire les dépôts allergisants dans les yeux. Évidemment, essayez de limiter au maximum les promenades et la pratique d'une activité physique en plein air, évitez aussi de rouler avec les fenêtres ouvertes. Et puis il y a un allié supplémentaire qui a ses inconvénients en temps normal, mais qui peut vraiment servir cette fois, le masque chirurgical ou en tissu qui empêche les particules de pollen d'entrer par les voies respiratoires. Enfin, il existe une appli Alerte Pollen pour suivre en temps réel l'évolution près de chez vous.
Notez que depuis les années 70, les Français sont beaucoup plus sensibles au pollen, le risque allergique a progressé de 20%. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, excellente journée à tous à l'écoute de Sud Radio.
Merci à vous Clémence Lobary.
La météo Sud Radio.
Rémi André, il fait beau.
Il fait beau, c'est le moins qu'on puisse dire, avec du soleil partout, juste quelques nuages par-ci par-là sur l'Auvergne et sur l'Alsace. Ils vont se dissiper. C'est donc le soleil qui domine aujourd'hui, avec des températures qui, dès ce matin, sont déjà presque chaudes, notamment au bord de la Méditerranée, où là, on a atteint les 26 à 27 degrés. 27 degrés, c'est pour Montpellier ainsi que Le Cat, 26 degrés à Nîmes et à Perpignan. Des températures qui vont donc bien chauffer aujourd'hui, pour atteindre facilement les 29 degrés à Paris, 34 degrés à Toulouse, 35 à Bordeaux, jusqu'à 37 degrés à Perpignan.
Merci beaucoup Rémi André.
Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Philippe David.
Dans quelques instants, le débat du dimanche avec Frédéric Dabi et Yves Bourdillon. Y aura-t-il un raz-de-marée RN au régional? On a parlé du sondage Occitanie, mais il n'y a pas que l'Occitanie. Pour le moment, vous êtes 71,4% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.
Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Philippe David. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Éric Orsenna, écrivain, académicien, marin, haut fonctionnaire, il a mené plusieurs vies avec un bonheur qui lui permet de demeurer un éternel jeune homme. Ses mots-clés, le travail, mais aussi amour, qu'il fait rimer avec humour. Également passionné de musique, il vient de consacrer un livre à Beethoven. Éric Orsenna est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, le débat de la semaine.
Les élections régionales auront lieu dans une semaine pile et jamais le RN n'a été aussi proche de pouvoir remporter une des régions métropolitaines. En effet, si on regarde ces mêmes sondages, il est en tête en PACA, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Occitanie et au coude à coude avec la droite dans les Hauts-de-France, le Grand Est en Normandie avec la gauche en Nouvelle-Aquitaine. Bref, il est aujourd'hui virtuellement le premier parti de France. Il y a donc une forte probabilité, sauf Front Républicain, loin d'être acquis partout, que le RN dirigera une ou des régions françaises le 27 juin au soir. Y aura-t-il un raz-de-marée RN au régional ? C'est notre débat du dimanche. Et pour le moment, vous êtes 71,5% à dire oui. Avec nous pour en débattre, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP.
Bonjour Philippe.
Vous avez eu une promotion, félicitations.
Merci, cher Philippe.
Et bonjour.
Bonjour.
Et Yves Bourdillon, journaliste aux Échos, auteur du livre « Jamais de guerre civile le mardi » publié chez Millingham, qui a suivi des conflits un peu partout dans le monde et des crises politiques. Bonjour.
Oui, bonjour.
Tout d'abord, on va commencer avec le sondeur. Manifestement, quand on voit les sondages de l'IFOP de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg, ça va être de bonnes élections pour le RN.
Sans doute oui. Alors je ne parlerai pas de terme raz-de-marée, parce que raz-de-marée voudrait dire que le RN reporte énormément de régions, ce qui ne sera sans doute pas le cas. Et s'il y a une constante dans cette élection, Philippe, parfois on veut sortir des sortants lors d'une élection. Là, les sortants s'en sortent plutôt bien. Aujourd'hui, même s'il y a un danger pour le sortant, pour la sortante, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val-de-Loire, on parlait tout à l'heure de Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les sortants sont plutôt bien positionnés. On peut dire aujourd'hui qu'aucun n'est sûr de perdre. On ne disait pas ça en 2004 ou en 2010 à des élections régionales précédentes. Mais c'est vrai que dans toutes les régions, le RN, la liste RN est plus haute que l'étiage de Marine Le Pen de 2017. Il est parfois plus haut que même les scores du RN en 2015. Hein. Marion Maréchal avait fait 40 en Provence à Côte d'Azur dans les sondages tirés Marine entre 39 et 41. Donc il est à cet étiage-là. Et c'est vrai qu'il est en situation de remporter une, deux, trois régions. Remporter une région, ce serait un véritable événement. Plus de deux, ce serait un véritable séisme. C'est en ça qu'on peut parler d'une dynamique RN dans ce scrutin régional qui va être touché par une abstention tellement forte que soyons prudents sur les enquêtes d'opinion compte tenu de la faible part des Français qui vont voter aux alentours de 40%.
57% en Occitanie, selon le sondage qu'on a décrypté ce matin
avec
Vincent Terrain-Noves et Jean-Paul Garraud. Vous le voyez venir, vous serez raz-de-marée ou pas? Il y a 71,5% des votants sur Twitter qui le disent, Yves Bourdillon.
Non, je ne suis pas d'accord. Il y aura effectivement, comme ça vient d'être dit, une dynamique, mais raz-de-marée, le mot est beaucoup trop fort, ne serait-ce que parce que même s'il est en tête dans un grand nombre, dans la majorité des régions, on l'a déjà vu en 2015, il avait été en tête dans plusieurs régions et ça ne s'était pas concrétisé. Donc tout dépendra des accords, de désistements, mais il y a une grande incertitude aussi, puisque personne n'est propriétaire des voix de ses électeurs. Donc est-ce que les électeurs LR ou En Marche ou PS suivront les instructions ou pas de leur état-major? On ne sait pas. Mais je ne vois pas un raz-de-marée, ne serait-ce que certains scores dans certaines régions, je parle sous votre contrôle, en 2015, les résultats du Rassemblement National étaient supérieurs aux sondages d'aujourd'hui dans plusieurs régions. Donc il y a une dynamique, mais ce n'est pas pour autant très fort.
Frédéric
Dabi. Vous avez tout à fait raison de parler de l'articulation premier tour, second tour. Ce n'est pas une élection européenne à un seul tour, où qu'on se souvient, en 2014, en 2019, le RN était arrivé en tête et pouvait se targuer d'être le premier parti de France. Dans un rapport de force à deux tours, l'enjeu pour le RN, c'est de passer de statut de force répulsive au second tour. On se souvient, hein, il fait 40% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marine Le Pen fait plus de 40% en Hauts-de-France. À l'époque, ça s'appelait Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Elle devançait de 15 points Xavier Bertrand. En temps normal, la messe est dite, si je puis dire. Mais le front anti-RN, anti-FN à l'époque s'était mis en place et le FN n'avait gagné aucune région, ce qui avait démobiliser très fortement son électorat. Et le mauvais score, entre guillemets, de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, où elle est devancée par Emmanuel Macron, ce que les sondages trois mois avant ne donnaient pas, ça vient de là. Maintenant, ce qui va être l'enjeu pour le RN, c'est de devenir une force attractive, d'être même une force attrape-tout, de réussir à capter au second tour des électeurs de gauche et surtout de LR, parce que la vraie différence entre 2015 et 2020, c'est la capacité, sauf dans des régions où le sortant est positionné très à droite, je pense à Laurent Wauquiez, la force du RN a capté une part de l'électorat Fillon de plus en plus importante, un tiers en Provence, à Côte d'Azur.
Et 27% en Occitanie. Alors justement, il y a un commentaire qui, pour vous faire réagir, qui colle un peu à ce que dit Frédéric Dabi, pour dire, on a Michael Meignier qui nous dit, au raz-de-marée, oui, au premier tour, 3 points de suspension. Est-ce que vous avez la même opinion que Michael Meynier et que Frédéric Dabi ?
Eh bien oui, les sondages indiquent qu'au premier tour, le RN sera en tête dans un grand nombre de régions, mais comme on l'évoque, il y a quand même une grande incertitude entre le premier et le deuxième tour. Donc au premier tour, le Rassemblement National profite aussi d'une dynamique qui est que les thèmes qu'il porte depuis toujours, il faut le reconnaître, deviennent plus ou moins mainstream, c'est-à-dire que sa dénonciation du communautarisme et de l'immigration sont maintenant devenus, à cause de tout un tas d'événements historiques, assez dominants dans le discours même des partis d'en face. Il y a quand même quelque chose qui m'a impressionné. Arnaud Montebourg, il y a quelques jours, disait « il faut contrôler l'immigration ». Ce n'était pas des choses qu'on entendait de la part de ce genre de dirigeants il y a quelques années. Et ça, c'est une tendance lourde sur laquelle le Rassemblement National capitalise et qui n'est pas propre à la France. On le voit partout en Europe, d'ailleurs. Il y a un événement, c'est que les Danois, avec un gouvernement social-démocrate, viennent de voter une loi qui prescrit que les demandeurs d'asile ne pourront pas aller sur le sol danois. Leur dossier sera traité ailleurs. Donc il y a une dynamique sur ce thème-là très fort du communautarisme dont le RN profite.
Justement, Frédéric Dabi, je vais ajouter juste une chose. Cette semaine, il y a quelques jours, Emmanuel Macron dit que la France n'expulse pas assez les déboutés du droit d'asile. Est-ce que ça ne va pas dans ce sens-là ?
Ça va complètement dans ce sens. Et mon cher Philippe, je vous renvoie à notre sondage qu'on avait décrypté ensemble il y a quelques mois, radiographie du vote RN, au sondage
Absolument.
FIFA fiducial pour
c'était
le JDD.
C'était au
mois de mars, je crois.
Ah, non, c'est plus récent que ça. Alors.
Voilà, il n'y a pas de problème.
Le temps passe
et
vite.
C'est vrai que quand on interrogeait des électeurs du RN, 1000 électeurs qui ont voté RN au moins une fois sur 3000 Français, la première motivation de vote de ces électeurs RN, c'était pas Marine Le Pen, c'était pas sa personnalité, c'était le fait que le RN, il y a bien sûr la protestation, et le fait que le RN faisait des constats justes sur l'état de la société. Hein. Et ce même sondage montrait une certaine droitisation du pays sur les valeurs, le sentiment de déclin, le sentiment d'insécurité culturelle, et c'est vrai que cette droitisation du pays, la focalisation notamment médiatique sur les faits divers, sur l'insécurité, la délinquance, c'est les moteurs du vote RN. Pour autant, je répète ce que je viens de dire parce que j'espère que je ne serai pas complètement démenti la semaine prochaine. Attention, avec une abstention massive qui dépasserait 60%, ça touchera tous les partis, y compris votre Rassemblement National, qui est un électorat jeune, populaire, qui s'abstient plus que la moyenne. Quand l'abstention dépasse 50, 55, 60%, on ne dit plus pour qui sonne le glas, il sonne pour tout le monde.
Yves Bourdillon, on va voyager, on est en Occitanie, on va partir en PACA. Si on regarde les sondages de PACA, l'ensemble des droites, je mets des droites au pluriel, c'est 80% des voix à peu de choses près. Est-ce que la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui finalement ?
J'ai du mal à trouver une période où elle aurait été plus, en tout cas, effectivement. Alors peut-être, oui, la chambre introuvable en 1968,
oui.
Mais à part... Bon,
ou la chambre le bleu horizon en 1919, mais
voilà.
C'était un peu différent. Les
contextes particuliers.
Les contextes étaient
voilà.
particuliers.
Donc à part cela, effectivement, tous les sondages, notamment sur des valeurs d'ordre ou de nation, montrent qu'effectivement, la France n'a jamais été aussi à droite, au moins dans les sondages. Maintenant, il se trouve que les partis sont dispersés entre 3-4 composantes.
Est-ce que vous croyez qu'à un an de la présidentielle, on peut faire encore des fronts républicains ?
Ça dépend. Ça dépendra du contexte. Dans la région Provence-Côte d'Azur, on a réalisé une enquête avec LCI, Le Figaro et TF1, où on voit que un second tour en duel, parce que pour l'instant, la configuration, Philippe, en Provence-Côte d'Azur, c'est une triangulaire. Même oui. si la gauche, vous le disiez, monsieur, est absolument faiblissime.
Parce elle est entre 15 et 17, selon les sondages.
En fait, la gauche, c'est simple. Dans les régions où elle est sortante, elle tient le choc. Vous avez ce matin débriefé, si je puis dire, notre sondage IFOP fiducial pour la Dépêche du Midi et Sud Radio en Occitanie. Elle tient le choc également en Nouvelle-Aquitaine quand elle n'est pas sortante. Et quand, en plus, il y a le contexte de 2015 où elle s'est effacée, auto-effacée dans les Hauts-de-France et en PACA, la gauche est absolument marginalisée. Donc, dans le cadre d'un duel, un front républicain est possible, mais c'est vrai que ce sera de plus en plus serré. Et même en 2015, quand Christian Estrosi avait surclassé Marion Maréchal, n'oublions pas que dans un département, en l'occurrence le Vaucluse, le Front National, il s'appelait comme ça à l'époque, était majoritaire.
Il faut faire attention avec le Front Républicain au passage, c'est que si les socialistes se désistent pour un candidat LR ou pour En Marche, ou si En Marche se désiste pour un candidat LR, enfin si ces trois partis se désistent les uns des autres pour faire barrage à l'extrême droite selon la formule consacrée, ça devient difficile de voir, ils ne sont plus dans l'opposition, c'est-à-dire qu'ils sont de facto plus ou moins des soutiens. En tout cas, pour beaucoup d'électeurs, ça serait l'interprétation qu'ils feraient, qu'ils soutiennent En Marche. Donc ça veut dire qu'on serait dans un pays où, si vous êtes contre contre En Marche, vous n'avez plus de place dans l'opposition que pour le Rassemblement National, ce qui pose problème. Dans une démocratie, si la seule opposition c'est l'extrême droite, il y a un petit souci.
Il y a aussi un dernier point. Avant, le Front Républicain, c'était un jeu à trois. C'était gauche, droite, FN. Et il n'y avait qu'une seule force qui devait se sacrifier, très souvent la gauche, parfois la droite, et les reports de voix étaient moins bons. Maintenant, il y a quatre forces, donc c'est plus difficile à mettre en place, et c'est vrai que ce concept est relativement usé. Je ne mets pas dans le même sac, si je puis dire, l'élection présidentielle, où il y a cette logique de vote à deux tours, et de logique d'élimination au second tour. On connaît l'adage célèbre de Charles Pasqua, au second tour on élimine, et c'est vrai que c'est de ce point de vue-là, plus facile, il n'y a même plus besoin de parler de Front Républicain.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat qui aurait pu durer des heures. Ça nous promet d'ailleurs de belles soirées électorales sur Sud Radio dimanche prochain et dimanche en 8 et en 15
avec Romain Ben David
de l'IFOP qu'on salue d'ailleurs. Il doit probablement nous écouter. Verdict sur Twitter. Y aura-t-il un raz-de-marée RN au régional? Vous êtes 71,5% à dire oui. De suite, Osez Investir, Thomas Binet qui reçoit David Chouraki dans l'hebdo, directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier en charge de Square Habitat. Et en seconde partie, alors là on a des fouteux, Reynald Lemaître qui a joué 300 matchs de Ligue 1 et qui est maintenant conseiller en gestion de patrimoine.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio.
Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David. La météo Sud Radio.
Il fait beau, Rémi André. Il fait bon.
Il fait beau, il fait bon, il fait chaud. Nous avons une très très belle journée estivale avec des températures qui sont déjà bien agréables. Températures qui atteignent maintenant les 27 à 28 degrés sur le Roussillon du côté de Perpignan. 27 degrés, c'est pour Narbonne ainsi que Gruissan. 27 degrés, vous les avez également du côté de Nîmes. À Montpellier, 28 degrés également. Donc il fait chaud près de la Méditerranée. C'est là qu'il fera le plus chaud aujourd'hui, entre 35 et 37 degrés. 37 degrés étant prévu à Perpignan. Dans le sud-ouest, eh bien, il fait déjà 25 degrés à Bordeaux. 23 à Toulouse, et bien là nous atteindrons les 34 à 35 degrés le long de la Garonne. Sur la moitié nord, il fait déjà une vingtaine de degrés du côté de Paris et 17 degrés à Lille. Et bien là, sur la moitié nord, nous atteindrons les 25 à 30 degrés de maximum.
Merci beaucoup Rémi André. Bonjour Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul Delperrier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est le prix du Major Fridolin, le quintet du jour.
Oui, Paris-Longchamp, où il va faire chaud apparemment, 1400 mètres avec 16 concurrents, mais surtout le plus intéressant, Philippe, c'est la tirelire de 500 000 euros mis en place par le PMU à se partager pour les gagnants dans l'ordre. Le 3 Rimini sera mon favori. Il a été baissé sur l'échelle des valeurs. Je lui fais confiance avec le 7 Twashk, l'Ascaliste, le 11 The Champ, 9 Kubo, 16 I Guess Rocker, 10 Roderick et 5 Sinilga. 3, 7, As, 11, 9, 16, 10 et 5. En sélection du jour à Aix-les-Bains, en réunion 4, course 5, je vous conseille le 2, Adam Henschen.
Merci beaucoup, mon cher Jean-Paul Delperrier. Tous vos pronostics sur sudradio.fr. Je salue nos amis basques qui ont vu un match terrible hier entre l'aviron bayonnais et le Biarritz Olympique. Le BO va remonter en top 14 et on souhaite vraiment bonne chance à l'aviron bayonnais de remonter la saison prochaine. Allez, à très vite, tout de suite. Osez investir, Thomas Binet.
Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons pour le 91e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas?
Eh bien Philippe, on va parler d'un site pour réserver son lieu de vacances comme innovation de la semaine. On va recevoir ensuite David Chouraki, qui est directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier en charge du réseau Square Habitat. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadeau et on reviendra faire un petit tour dans l'immobilier neuf avec David Chouraki pour terminer cette émission.
Et en seconde partie d'émission, on sera avec Reynald Lemaître, ancien footballeur professionnel qui s'est reconverti comme conseiller en gestion de patrimoine.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio. Osez investir, la clé de la semaine.
Et Thomas, cette semaine, vous allez nous parler des résidences secondaires.
Oui Philippe, les résidences secondaires sont un bon moyen de s'évader. On en parlera tout à l'heure, très probablement avec David Chouraki. Et vous n'avez plus besoin de réserver donc des hôtels, mon cher Philippe, ou de programmer vos vacances à l'avance parce que vous êtes chez vous. Mais cela implique des charges en plus à payer normalement.
Mais une note salée en retour ?
À la maison, forcément, eh bien, Philippe, non, parce que vous allez pouvoir louer votre bien quand vous ne l'occupez pas et ainsi gagner de l'argent. Beaucoup de plateformes existent pour afficher votre annonce, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Cela prend déjà du temps, mais après, vous devez aussi gérer les réservations sur les différents sites.
Donc, si j'avais une résidence secondaire, je pourrais la louer à des personnes Absolument. Différentes, à des dates similaires, si je n'étais pas bien organisé.
Oui, mais comme vous l'êtes, ça va se passer différemment, mon cher Philippe. Alors justement, grâce à HomeRez, qui s'écrit HOMERZ, grâce à cette application, vous pouvez gérer votre annonce sur plus de 20 sites partenaires via un calendrier unique. Une technologie vous aide à optimiser les prix pour maximiser vos réservations toute l'année. L'équipe d'HomeRez s'occupe de répondre aux questions des voyageurs et de la gestion des demandes de réservation jusqu'à la confirmation et le paiement.
J'imagine que cette application est payante, Thomas.
Alors, pas tout à fait, Philippe. Il n'y a ni coût d'entrée ni frais de résiliation, mais 15% de commission sont prélevés sur chaque réservation.
Sud Radio, osez investir.
Notre invité cette semaine est David Chouraki, directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier en charge de Square Habitat, qui est un réseau d'agences immobilières composé de 500 agences en France. Vous intervenez en transaction et en gestion, syndic et location.
Ah oui Philippe, nous recevons donc David Chouraki ce matin pour parler immobilier dans les régions, parce que c'est un vrai sujet. On a toujours un peu trop tendance à parler de Paris et de l'Île-de-France. Bonjour David Chouraki.
Bonjour.
David Chouraki, nous vous avions reçu en novembre dernier. Nous avions évoqué la situation du moment et celle à venir. Les règles du confinement viennent de s'assouplir et vont disparaître pour cet été, et souhaitons définitivement. Quel bilan portez-vous sur cette période à travers vos 500 agences qui vont se donner donc un panorama d'observation précis?
Écoutez, c'est finalement une période incroyable pour l'immobilier. Oui. On a, quand j'étais venu vous voir, on avait des craintes sur ce qui se passerait après le confinement. Et en fait, l'immobilier marche très bien. C'est vraiment un printemps de l'immobilier. On a changé nos pratiques, on a beaucoup plus de digitalisation aujourd'hui qu'avant. On utilise des outils qu'on n'utilisait pas. On a fait des ventes alors que les agences étaient fermées. Donc on a prouvé que finalement, on avait muté aussi dans notre façon de travailler.
Moi, je voudrais avoir votre analyse sur l'immobilier en région. Est-ce qu'il y a des métropoles qui ont bénéficié de cette situation, parce qu'elle est tout à fait inédite dans notre histoire ?
Alors la situation, elle est incroyable. La demande est très forte, c'est plus 13% par rapport à l'an passé, avec une offre en baisse, des ventes qui progressent de 10%, des délais de vente qui se contractent, on est aujourd'hui à 85 jours en moyenne en France, et des marges de négociation réduites. Donc on est sur une activité extrêmement forte, un chômage qui est maîtrisé, un taux d'intérêt qui est très bas, qui sont les deux indicateurs qui traditionnellement drivent l'évolution des prix et du marché. Si ces deux paramètres restent inchangés, les prix vont continuer à tirer à peu près partout en France.
Alors David Chouraki, on n'a pas de crise économique, hein. PGE, soutien de toutes les activités économiques globalement durant cette période, ce qui laisse entendre que effectivement l'immobilier ne devrait pas souffrir dans le moment. Mais en revanche, quand il va falloir rembourser, quand il va falloir retirer les subventions, et ça va arriver, est-ce que vous ne pensez pas que la marge d'ajustement va se faire sur l'immobilier pour les accédants ?
C'est ce que je disais, aujourd'hui les paramètres on les connaît. J'étais prudent pendant la crise, hein. J'étais très prudent, la preuve que le marché a été extrêmement résilient. Aujourd'hui on a le sentiment que le marché est solide, pareil, je reste extrêmement prudent, c'est normal, mais aujourd'hui on a des grandes métropoles qui augmentent leur prix à 5-10% parfois.
Lesquelles par exemple ?
Alors on a Montpellier aujourd'hui à 10%, on a Rennes à 9%, on a Toulouse à 12% qui tire très fort. On a aussi un printemps de l'immobilier dans les villes moyennes. Et on a un printemps de l'immobilier dans les villes moyennes qui est encore plus fort que dans les très grosses agglos. Il y a un phénomène de rattrapage. J'ai pris dans notre réseau quelques exemples. On a Angers, plus 16%. On a Metz à plus 15%. On a Clermont à plus 8%. Poitiers à plus 12%. Donc on a des villes importantes et des villes moyennes qui bénéficient de ce développement. Avec des grandes agglos qui du coup marquent peut-être un petit peu plus le pas, mais sont elles-mêmes en croissance.
Alors justement, est-ce qu'il y a des métropoles, des régions qui subissent un contre-coup de situation ?
Alors je dirais qu'il n'y a pas aujourd'hui de métropole ou de grande ville qui subissent un coup d'arrêt. Par contre, c'est vrai qu'on voit des transformations du marché, une mutation en profondeur, alors qui reste à se confirmer, mais par exemple sur les migrations, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de maisons, d'appartements avec accès extérieur, et puis on voit qu'il y a des ruralités qui marchent très bien, et notamment par exemple en Normandie, où on voit bien qu'il y a un report des demandes de la région Île-de-France. Donc cette transformation dont on ne savait pas si finalement ça allait être un feu de paille, aujourd'hui les indicateurs avancés qu'on a montrent que finalement c'est quelque chose d'assez profond.
Alors est-ce que l'arc des 150 km dont on nous a beaucoup vanté l'émergence l'année dernière autour des villes, un an après le début de cette pandémie, reste recherché par les acheteurs ou c'était un feu de paille ?
Non, c'est pas un feu de paille. Moi je pense que c'est très structurant pour la mutation du marché immobilier. Je l'ai dit, on a des demandes très fortes en ruralité proches des très grosses agglomérations. Je parlais de la Normandie. Alors c'est un peu moins vrai dans une très grande ruralité. Mais
toute la Normandie ou une certaine partie de la Normandie ?
Toute la Normandie aujourd'hui est en développement en termes de prix. C'est vrai aussi, si j'illustre différemment, avec la Savoie. Aujourd'hui, on a des très fortes tensions à Aix-les-Bains, à Annecy, à Chambéry. Et on sait que c'est de la migration en provenance des métropoles Grenoble, Lyon, Genève. Côte Atlantique, pareil. On sait qu'il y a une forte tension sur la côte qui vient notamment des Nantais. Donc il y a vraiment une mutation aujourd'hui du marché immobilier. Alors après, il y a du coup des tassements de la croissance dans des grandes métropoles. On a des ralentissements de la croissance, hein, c'est le fameux ralentissement du taux de croissance. Mais c'est vrai que des villes, bon, comme Paris, on le sait, étaient plus stabilisées depuis un certain nombre de mois. Mais c'est le cas pour nous aujourd'hui, par exemple à Lyon, qui reste un marché qui tire fort, mais qui commence à se stabiliser. Alors nous, on a des indicateurs avancés qui nous le disent, et notamment les délais moyens de vente. Et on sent qu'effectivement, évidemment, la machine tourne un petit peu moins vite que ce qu'elle a pu tourner. Je ne dis pas que ça baisse, je dis que ça continue d'augmenter, mais que le taux de progression est un peu moins fort.
Alors, est-ce que vous pensez que cette année, on va battre un record de vente ?
Moi, je pense qu'on va atteindre un niveau qui sera sans doute proche de celui de 2019, qui était un record.
Absolument.
Je ne prends pas de pari sur le fait qu'on va battre le record, parce que c'est une année extrêmement compliquée. Vous l'avez dit, des paramètres fondamentaux de l'économie peuvent changer d'ici là. Donc, j'ai mon humilité habituelle sur le sujet. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est au point de passage, hein, si on parle comme les sportifs, au point de passage, on est sur une très grande année immobilière.
Donc une belle année qui quand même va se conclure là-dessus. Et donc, vous ne pensez pas le million, mais 800 000, 900 000
ah, je pense que si je devais... j'aime pas les prévisions de ce type-là, mais je dirais je pense qu'on sera au-dessus des 900 000 si on garde, encore une fois, on est très prudent, hein, on est même pas à mi-année. Je pense qu'on sera effectivement au-dessus sans doute des 900 000 si on garde les points de passage actuels.
Alors restez avec nous, David Chouaraki, on va vous retrouver dans quelques instants pour parler un peu d'immobilier neuf parce que c'est un vrai sujet également.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Alors Bernard, vous allez nous parler prix, mais faut-il vraiment encore en parler aujourd'hui ?
C'est sans doute le sujet le plus important traité et commenté. Les prix montent, les prix vont-ils encore grimper ? Les prix baissent, les prix vont-ils encore baisser, voire s'effondrer ? Le plus souvent, c'est un commentaire général qui fait fi des disparités locales et régionales, et parfois même, selon les appréciations, on pourrait presque confondre avec des actions en bourse. Rappelons à cet égard que ce n'est ni la hausse ni la baisse qui provoque l'intention d'achat ou de vente. Imaginez des dialogues ubuesques. Dis donc chérie, t'as vu, les prix montent, allez on vend notre maison. Ou alors, dis chérie, les prix baissent, vite on achète. Ce n'est heureusement pas comme ça dans la vraie vie. Vendre ou acheter un bien immobilier participe d'un projet de vie aux antipodes de toute réaction précipitée.
Mais alors Bernard, suivre les prix, ça devient inutile en définitive ?
Non, car l'indicateur des prix, c'est un repère indispensable, c'est une boussole pour peu qu'on sache regarder en arrière et mesurer au fil du temps son évolution et la comparer à d'autres critères tout aussi significatifs. Cette approche constitue un élément fondamental en vue d'une analyse globale. Je m'explique. Remontons à 1990. À ce jour, la valeur des logements a progressé de 214%. Mais le salaire par tête de 97% et les prix à la consommation de 60%. Enfin, sur la même période, le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 23%. Bon, et alors ? Me direz-vous, si on intègre le coût du logement, le pouvoir d'achat n'a pas progressé de 23%, mais de 9% seulement. Oui. Et les écarts continuent de s'accroître. On voit bien ici, dans ces quelques chiffres, combien le poste logement pèse dans le budget des familles. À titre de comparaison, sur la même période, en Allemagne, les prix de l'immobilier augmentaient de 92%, mais les salaires augmentaient de 98%. C'est tout autre chose, vous en conviendrez.
On fait comment, Bernard ?
Sans envisager le même résultat en France, il est urgent de mener une politique de construction et de rénovation massive pour produire plus de logements et rééquilibrer in fine l'offre et la demande de logements. C'est le seul chemin vers des prix raisonnables. Le choc de l'offre promis par notre président est devenu en fait le pchit de l'offre. Il faut changer de logiciel.
Merci Bernard.
ImoStim, commercialisateur en immobilier neuf, présente...
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous retrouvons David Chouraki, qui est directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier en charge de Square Habitat.
Oui, David Chouraki, alors on a parlé il y a quelques minutes du marché de l'ancien. Là, on vous retrouve pour recueillir votre avis quand même sur le marché du neuf, parce que c'est beau, ça peut être le marché de l'immobilier, c'est un sujet très différent de l'ancien qui subit des contre-coups. Alors, il y a un an, faut pas oublier, évidemment, on a parlé de la pandémie tout à l'heure, mais il y avait aussi les élections municipales à rallonge, puisqu'elles se sont quand même déroulées sur plusieurs mois. Est-ce que tout ça, depuis un an, a changé la donne dans ce secteur d'activité ?
Oui, absolument. Le marché du neuf est en tension également. Alors, il y a une très forte demande. On a une offre commerciale qui a été ramenée à 80 000 logements. Ça veut dire presque 10 000 logements de moins que le premier trimestre 2020 et qui est finalement aujourd'hui à un plus bas historique depuis 2012. Donc ça veut dire un niveau d'activité qui est très faible. Alors comment ça s'explique ? Il y a une cause conjoncturelle, il y a une cause qui est plus structurelle. Conjoncturelle, c'est la baisse des permis de construire qu'on a habituellement dans les phases d'élection, avec en plus des majorités qui ont changé dans un certain nombre de grandes villes, un droit d'inventaire qui est donné aux majorités municipales. Donc on a clairement une offre qui va être tendue à cause de ça. Et puis on a une offre plus structurelle sur des difficultés de foncier. Hein, et le développement aujourd'hui pour les promoteurs est de plus en plus difficile. Donc le niveau qu'on a aujourd'hui est bas. Et puis il y a un troisième phénomène, un phénomène conjoncturel aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes en bloc de la part d'un certain nombre de grands promoteurs pendant la pandémie, y compris des décisions économiques importantes en vendant en bloc, qui fait qu'effectivement aujourd'hui on a un marché qui est tendu pour ces raisons-là.
Merci David Chouraquier. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier en charge de Square Habitat.
Et restez avec nous, on revient dans un instant avec le club aux investir et Reynald Lemaître, ancien footballeur et conseiller en gestion de patrimoine, pour parler football cette saison, placement et reconversion.
Sud Radio, le grand matin week-end, osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.